Assalamu alaikum wa rahmatullah les amis, que la paix et l'amour rayonnant d'Allah soient sur vous. Avant de diffuser le prochain épisode, je tenais à vous remercier pour vos nombreux et précieux compliments concernant celui de Mariam, donc l'épisode 7. Je lui ai transmis vos retours, votre amour, et elle en était très touchée. C'est fou parce que pour être très transparente avec vous, j'étais quand même très mitigée sur le fait de faire cet enregistrement. Et pour rester dans une logique de transparence, cette conversation, ça a été la plus difficile pour moi à préparer. J'ai eu peur d'être hors sujet, j'ai eu peur de manquer de sensibilité, peur de passer à côté aussi. Mais force est de constater qu'une semaine après vous l'avoir partagé, c'est déjà l'un des épisodes les plus plébiscités. C'est incroyable. Donc merci. Merci de m'avoir montré que je me suis trompée. Merci d'élargir le champ de la discussion autour du mariage. Et puis enfin merci de m'aider à construire une émission qui, inshallah, perdurera et nous permettra d'aimer mieux, d'aimer Dieu et de vivre heureux. Allez, sans plus tarder, je laisse place aux épisodes de l'été.
Moi, la phrase de fin juste avant l'épilogue,
oui,
c'est une phrase qui vit en moi.
La manière dont ça pose la réflexion, la manière dont ça fait avancer le sujet des violences conjugales, ça c'est fort.
Ouais.
Ça, moi, je l'ai jamais lu.
Entourons-nous en fait de la réalité. Entourons-nous de contenu sur les vrais couples.
Durant le mois d'août, vous et moi, on ne se quitte pas, mais on change légèrement de format. Les prochains épisodes seront toujours consacrés à l'amour, au mariage, évidemment. Mais la particularité, c'est qu'on partira d'une sélection d'ouvrages pour discuter, méditer, avancer sur ces différents sujets. À travers des essais, des romans, des livres religieux, on essaiera de comprendre comment aimer mieux, pourquoi il est urgent de prendre du recul sur les princes de romans aussi charmants qu'inexistants, et puis on parlera aussi de l'amour qui nous lie à Dieu, parce que, comme vous le savez, c'est la condition sine qua non pour un mariage durable et heureux. Je souhaite la bienvenue dans le Halal Book Club et vous laisse profiter du programme de l'été sans plus tarder. Bonne écoute.
Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue dans le premier épisode du Halal Book Club. Pour ce premier épisode, on va discuter d'un roman qui peut être classé dans les comédies romantiques, mais vous allez voir que c'est un peu plus subtil que ça. Mais surtout, on va partir de cette œuvre-là pour converser avec mon invité sur un sujet qui est quand même très lié à ce style littéraire, à savoir la manière dont l'amour est storytellé sur le papier et surtout l'impact très concret que ça a dans nos vies, dans le choix de notre époux, voire même dans notre manière de vivre le mariage, voire même de mal le vivre. Pour ce faire, je vous demande d'accueillir une invitée très spéciale. Eline, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis surtout présenter le podcast que tu co-animes ?
Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Eline, j'ai 28 ans et depuis maintenant presque bien un an et demi, j'ai un compte sur Instagram qui s'appelle Eline et Livre sur lequel je partage toutes mes lectures. Et grâce à ce compte, j'ai co-créé avec deux de mes amis un podcast qui s'appelle le Thé Livresque. Qui est du coup, comme vous l'imaginez bien, un podcast autour de la lecture dans lequel, en fait, on va avoir une grosse partie débat, discussion sur les livres, une chronique journalistique qui s'appelle le Smarty qui est animée par Sarah, la journaliste de l'équipe, et à la fin, une dégustation de thé parce que qui ne lit pas de livres sans son petit thé, franchement, fallait faire un truc, évidemment. Et du coup, ouais, ça se termine comme ça et à la fin, on dit, voilà, ce thé nous avait pensé à tel livre. Et voilà, et on aime trop ce podcast, on est trop heureuse de le faire vraiment, c'est l'une des meilleures choses que j'ai fait cette année dans ma vie, donc voilà.
On a très peu de reviews qui sont muslim friendly, muslim oriented, et ça fausse complètement j'ai aimé ce livre, je ne l'ai pas aimé. Et l'idée même de ce livre-là et de la discussion qu'on va avoir après, c'est vraiment de pouvoir se dire comment je fais pour avoir une bibliothèque qui ne met pas à mal mes convictions religieuses, mais qui n'est pas mal non plus mon amour de la lecture, parce qu'on reste des très très grandes lectrices, on aime lire depuis toujours, hein, et c'est possible de lier les deux. Pourquoi ? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit lui-même iqra, lis.
Ah, bien sûr.
Lis. La lecture, ça, c'est censé avoir une place dans nos vies, mais il faut voir, il faut essayer en tout cas Et c'est ce qu'on va essayer de faire modestement aujourd'hui. On va essayer un peu de combiner nos deux passions, la foi et la lecture. Bon, en tout cas, pour en revenir au roman dont on va discuter aujourd'hui, ça s'appelle « It Ends With Us » de Colleen Hoover. Alors, « It Ends With Us », c'est le titre en anglais, parce que moi, je l'ai acheté à la gare de Saint-Pancras à Londres. mais en français, c'est « Jamais plus ».
Exactement, ça, oui.
C'est un livre que moi, j'ai... En fait, moi, je l'ai acheté à la gare parce que, vous allez me dire, « Madina, t'es très faible », mais bon, personne n'est parfait. Il est très beau.
Il est
d'accord.
Super beau.
Voilà, il faut quand même se le dire. La couverture, elle est canon. Les couleurs sont très belles. Et moi, je suis faible. Non, la réalité, il faut quand même le dire. Je nuance un peu mon propos. La couverture est belle. Et en fait, la quatrième de couverture, le résumé, m'a donné aussi envie. Ouais. Je vous place un petit peu le début de l'histoire. Donc, au moment où le livre commence, Lily, c'est le personnage féminin principal, elle est un peu au carrefour de sa vie. Mmh. À savoir, elle a fini ses études supérieures il y a peu, son père vient de décéder. Elle s'apprête à réaliser le rêve de sa vie, à savoir ouvrir sa boutique et devenir fleuriste. Et surtout, elle rencontre Ryle, qui est le second personnage principal, c'est le personnage masculin. Mmh. Ryle, c'est la personne à qui, sur le papier, tout sourit. Mmh. Évidemment, il est beau. Évidemment, non. Il est neurochirurgien. Et évidemment, il tombe d'amour pour Lily. Donc, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, que c'est niais. Pourquoi j'ai choisi ce livre, etc. Et c'est vrai que, voilà, leur histoire d'amour, elle commence plutôt bien. Et au moment où les choses commencent à devenir assez sérieuses entre eux, l'amour de jeunesse, de lycée de Lily, Atlas, réapparaît dans sa vie. Mmh. On est donc de prime abord, sur les premières pages en tout cas, on a l'impression que c'est une histoire d'amour qui commence bien et puis un triangle amoureux qui se met en place, sauf qu'en fait, pas du tout. Le sujet principal de sont les violences conjugales. Les amis, si vous souhaitez faire une pause sur le podcast pour en savoir plus sur le livre et le lire et revenir une fois que vous l'aurez lu pour discuter avec nous d'une autre manière, c'est le moment. C'est là où ça s'arrête pour vous et vous revenez après parce que là, en l'occurrence, il va y avoir du spoil assez conséquent parce qu'on a besoin un peu d'échanger sur ce que ce livre nous a apporté, etc. Pour aller très clairement dans le cœur du sujet, toi, Eline, qu'est-ce que tu as aimé dans ce livre ?
Alors, déjà, je pense que l'une des choses que j'ai le plus aimé, c'est la plume de l'autrice, que je trouve, mais alors, magnifique. Mais vraiment, enfin, je trouve que Colleen Hoover sait écrire de très belles phrases. Elle sait vraiment aussi transmettre les émotions, puisque j'ai su être. Aussi choquée que... En fait, j'ai vraiment vécu les émotions de Lily un peu en même temps qu'elle. C'est-à-dire que...
Ça, c'est fort.
Et le premier coup que tu ne vois... Enfin, que moi, je chantais bien parce que je savais que ça allait arriver. Donc, plus les pages passaient, plus je me disais, c'est quand qu'elle se fait battre pour la première fois, quoi. Et donc, ce truc... Et d'ailleurs, je me souviens l'avoir lu et être repassée un peu en avant parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Est-ce que j'ai mal lu ? Parce que moi, quand même, je savais... Attends, je crois que j'ai quand même un peu mal lu ce truc. Parce que ça sort tellement de nulle part. C'est tellement... Mais c'est
out of the blue, comme on dit.
Ah, mais vraiment, c'est ouais, violent vraiment. D'une force. Mm-hmm. Et j'étais vraiment choquée. Et puis après, et c'est vraiment le deuxième point qui fait que je pense que c'est vraiment un livre qui est un peu un coup de cœur, mais tu vois, pas sur le coup, mais maintenant, c'est quand même, en fait, au final, un peu un coup de cœur. C'est la justesse absolue avec laquelle Colleen Hoover a traité des violences conjugales. Et en fait, à quel point, moi, ça m'a permis d'avoir... pas de l'empathie parce que j'en avais déjà forcément beaucoup pour ces femmes qui vivent un enfer chez elles, mais pour comprendre pourquoi elles restent.
Ouais.
Et ça vraiment, mais oh là là, mais c'était, en fait c'est tellement bien écrit, genre vraiment, on se pose à la place de Lily et on se dit, moi je suis pas sûre que j'aurais réussi à partir. C'est une réalité. C'est que tu te dis, c'est, enfin, elle est dans une situation qui est horrible parce que même s'il la frappe, Ryle, il est amoureux de Lily et Lily est amoureuse de Ryle. C'est une réalité. C'est un couple marié, c'est un couple... On va pas tout vous spoiler, mais voilà, il se passe de grandes choses dans leur couple. Et là, tu te dis, mais... Oh. Ah, franchement, je me suis dit, j'avoue... Moi, je me disais, ah, franchement, c'est Lily, moi non plus, je sais pas quoi faire.
Enfin, c'est fou parce que ce qui fait que tu as aimé ce livre, moi, c'est exactement la même chose, ouais. C'est-à-dire quasiment... mot pour mot. Moi, je reviendrai sur la plume de l'auteur où, à titre personnel, je suis un peu plus nuancée.
Ouais.
Mais alors, par contre, la manière dont la violence arrive, tu la vois pas venir.
Bien sûr.
Pourquoi? Parce que la réalité, c'est qu'il se passe plus d'une centaine de pages. Le livre en fait 450, un truc comme ça. Donc, imaginez-vous, quoi. C'est presque un tiers du livre qui se passe. Et c'est brillant. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnages sont super bien installés. Donc, évidemment que tu le vois pas venir. Tu te dis, bah, en fait, Raël, c'est juste quelqu'un de parfait. Tu le vois pas venir. Et donc, quand ça arrive, j'ai trouvé ça extrêmement fort parce que toi, tu te prends toute la violence du coup.
Ah,
c'est-à-dire que toi aussi, tu prends la violence. En fait. Mais oui, c'est vraiment ce truc de toi aussi, tu te prends une claque en fait. Pareil que Lily, tu te dis waouh. Et c'est, enfin, franchement, je le lisais tout ça dans ma chambre. Je me disais, oh là, franchement, je crois que j'allais me coucher. Ça me va pas du tout. Et là, bam. Et là, je me dis, oula, je dois repartir en arrière parce que je crois que j'ai mal lu. Parce que je me dis, moi, je savais pas du tout que ça parlait de violence conjugale. Je me dis, en plus, c'est en anglais, donc j'ai pas mon
français,
je suis pas bilingue. Donc je me suis dit, peut-être que j'ai mal lu. Et là, je vois que non, j'ai pas du tout mal lu. Et je me dis, what? Hyper fort. Hyper fort. Parce que vous le verrez, c'est hyper bien écrit. Et vraiment, la violence que tu te prends, c'est la violence que Lily, elle a. Et c'est le deuxième point que tu as dit aussi. Moi, je l'ai ressenti aussi. Tu ressens parfaitement. Moi, c'est la première fois, voilà, pour le dire concrètement et de manière assez transparente. C'est la première fois de ma vie que je comprends la phrase « ça peut arriver à tout le monde ».
Ouais, d'ouf.
Moi, je ne l'ai jamais compris, cette phrase. Franchement, je suis très honnête. Moi, quand on me disait ça, je me disais « oui, ça arrive à tout le monde », mais en fait, non. Si tu es un peu… pour moi, je le dis franchement, hein, c'est… tu dois être un peu fragile psychologiquement, tu dois un peu manquer de confiance en toi, ou tu as un background familial qui fait que… Et en fait, Colleen Hoover, elle réussit deux choses. La première, c'est à nous faire comprendre qu'effectivement, personne n'est à l'abri. Et la deuxième, c'est en fait, c'est lié, c'est pourquoi personne n'est à l'abri. Parce qu'en fait, il n'y a pas de prototype d'homme violent.
C'est ça.
Et c'est ça qu'elle réussit à faire comprendre. C'est qu'en fait, Ryle, c'est pas Robert qui va chercher sa bière à 9h le matin.
Ouais, complètement, non. Ouais.
On est d'accord. Le gars est neurochirurgien encore. Et à la limite, c'est même pas une question de métier. C'est juste que c'est quelqu'un qui a une fragilité psychologique. C'est quelqu'un qui aime, mais qui aime mal. C'est quand même, faut quand même
le
préciser. Il aime, mais il aime mal. Mais si tu veux, il y a ce truc de... Et nous, les filles, on est assez victimes de ça. En fait, on voit souvent, on ne voit pas les choses venir. Pourquoi? Parce qu'il est gentil. Et en fait, il est gentil. Tu te dis, en fait, mon mari, il ne peut pas faire ça parce qu'il est gentil. Ouais. Non, ce n'est pas un homme violent parce qu'il est gentil. Mais attention, il est gentil, ça efface pas tout. Et c'est ça qu'elle arrive à faire, moi, je trouve... Colleen Hoover dans la manière dont elle a créé Ryle. Les autres choses que j'ai bien aimées, c'est la phrase, je vais pas dire, mais d'un personnage qui est proche de Lily et qui lui explique pourquoi c'est pas de l'amour. Parce qu'en fait, moi, à un moment donné, j'étais comme toi, je me disais, ah ouais, ben, quand elle explique à un moment donné pourquoi elle doit rester, moi-même, je disais, ah ouais, ben, je comprends, bah ouais, mais ouais, ma sœur, tu dois rester. Ouais. Alors que, mais pas du tout, mais on va pas se mentir, tu ressens un peu ça, non?
Bah, mais bien sûr que tu ressens ça, et puis surtout qu'elle est dans une situation où tout la pousse à vouloir rester avec Ryle, parce que tu vois que le mec, il est au bout de sa life, quoi. Genre, vraiment, il te déteste au possible d'avoir frappé celle qui devient en plus sa femme. Il culpabilise profondément. Donc, il n'y a même pas de sujet de « c'est un mec qui se dit « ouais, non, je ne crois pas ma femme, j'en ai rien à faire ». C'est pas ça. Ryle, il est au bout de sa life. Lily, elle est au... En fait, franchement, la vérité, tout le monde est au bout de sa life, parce que moi aussi, j'étais au bout de ma life avec eux.
C'est clair.
Vraiment. Et en fait, tu comprends. Et en plus, ce que je trouve qui est... C'est pour ça que je parle beaucoup de la justesse, c'est que elle te rappelle que l'amour, c'est pas ça. On te rappelle vraiment que l'amour, c'est pas ça, parce que toi, t'as envie de croire que c'est ça, surtout dans des histoires de livres, où on te donne un imaginaire sur l'amour qui est, mais alors, vraiment, très très loin de la vraie vie. Et en fait, non, l'amour, c'est quand tu frappes ta femme une fois, si t'es un bonhomme, c'est toi qui pars, en fait. Tu t'attends pas de ta femme qu'elle ait à prendre cette décision pour toi. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de bonhommes?
Ah, bah ça, c'est une vaste question. Mais tu vois, c'est cette phrase-là que tu dis. Et c'est une autre phrase qui est aussi un peu similaire que je retrouve dans le livre. Et moi, franchement, cette phrase, elle m'a touchée, en fait. Parce que vraiment, on a besoin parfois de relire cette évidence-là, surtout parce qu'encore une fois, pendant plus de 300 pages, tu te prends l'histoire de personnes qui s'aiment.
Ouais, c'est ça.
Tu te prends l'histoire de personnes qui s'aiment. Donc en fait, tu ne sais plus. Tu as perdu le focus, tu as perdu, ton système de valeurs qui est un peu embrouillé dans tes sentiments. Et ça, ça pour moi, c'était hyper fort. Et moi, la dernière chose que j'ai beaucoup aimée dans ce livre, alors peut-être que vous allez dire, Madina, je crois que tu n'as rien compris au livre, c'est Ryle.
Ah ouais?
En fait, oui, dans le sens où En fait, Raïl, c'est l'un des personnages les plus réalistes
Ouais, je
dans ses
comprends, ouais, je comprends ce que
fractures,
tu veux
tu vois?
dire. Mmh.
C'est-à-dire que bah, il n'est pas parfait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un sur le papier, tu crois qu'il l'est, et en fait, il ne l'est pas. Il se déteste pour ce qu'il fait aussi, et je l'ai aimé parce que je trouve qu'il a de la consistance. Moi, Atlas, franchement, il m'est passé par-dessus la tête. J'ai même pas compris l'intérêt. Je me suis dit vraiment, monsieur. Enfin, moi, en fait, je l'ai trouvé hyper fade. Et puis en plus, il a quand même passé l'entièreté de sa vie à attendre Lily. Enfin, franchement, il a pas de.
Ouais.
Il est très en passivité. Alors que Ryle, il a vraiment ce truc de. C'est un gars qui existe dans la vraie vie. Ou c'est plutôt la manière dont elle a écrit Ryle. Parce que je peux pas dire j'aime. Enfin, c'est plutôt la manière dont elle l'a écrit. Ça, j'ai trouvé que c'était assez fort.
Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres choses, toi, qui t'ont touché?
Bah, moi, c'est vrai que j'ai. Moi, la phrase de fin juste avant l'épilogue, c'est
Oui.
une phrase qui vraiment qui vit en moi. C'est-à-dire que c'est une phrase. Tu sais quoi, j'essayais même pas de me la rappeler parce que j'ai directement les larmes aux yeux dès que j'y pense. Tu vois, vraiment, c'est
Waouh.
automatique. C'est vrai. En fait, j'ai trouvé que c'était excessivement juste, mais parce que l'histoire de Colleen Hoover, elle est très liée à son livre.
Complètement.
C'est l'histoire. Alors, c'est excessivement romancé, hein, c'est pas, mais c'est inspiré quand même de l'histoire de ses parents. Et
Oui.
c'est d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que Lily et Ralph sont les personnages les mieux écrits, parce que c'est des personnages
Ouais.
qui ressemblent à ceux de sa vie à elle, en fait.
Tout à
Alors que
fait.
Atlas, c'est un héros de romance classique. Vraiment, tu vois, et c'est pour ça qu'il est
C'est juste.
excessivement irréaliste. Personne dans la vraie vie fait ce que Atlas fait. Vraiment, enfin, faut qu'on arrête ce truc. Personne n'est comme Atlas dans la vraie vie. Personne n'attend une
Mais
mauvaise
c'est
enfance.
ça.
Enfin,
Ah bon?
de croire. Mais dans la vraie vie, les gens sont aussi abîmés, sont aussi confus, font autant d'erreurs que Ryle et Lily. Après, moi, c'est vrai que personnellement, je voue une haine, mais vraiment, j'ai la haine contre Ryle. Tiens, moi, j'ai beaucoup de copines qui ont lu ce livre parce que justement, cette amie dont ses livres préférés a organisé une très grande lecture commune dont des dizaines de personnes ont lu ce bouquin. Moi, je ne l'avais pas lu en même temps qu'elle.
Waouh.
Et tout le monde a eu beaucoup de compassion un peu pour Ryle. Moi, Ryle, je n'ai pas de compassion pour lui. Je comprends ce qui se passe. Vraiment, je l'entends. Mais vraiment, tu peux crever devant moi, je te jure. Si j'étais pas musulmane, vraiment, je passerais mon chemin. Vraiment,
Ouais.
je voue vraiment une grosse haine pour ce personnage. Mais c'est parce que, enfin, moi aussi, j'ai une vision aussi de la violence, et notamment des violences conjugales, qui est peut-être un peu plus animée, tu vois, que d'autres personnes, tu vois.
D'accord.
Mais c'est vrai que, et puis surtout, un truc, mine de rien, que je garde et que j'apprécie beaucoup dans ce livre, c'est que moi, ça fait presque 8 mois que je l'ai lu, et il est encore très présent dans ma vie.
Oui,
Et je lis
ouais.
énormément,
Ouais.
et je peux vous dire qu'il y a des livres que j'ai lus il y a 3 semaines dont je me souviens déjà plus. Donc,
Ouais.
pour que je m'en souvienne, c'est que vraiment, il s'est passé quelque chose quand même qui se passe, vraiment qui se passe pas avec beaucoup d'autres livres, tu vois.
Bah, je pense que c'est vraiment enfin, moi, vraiment, effectivement, je dirais que c'est pas le. Moi, franchement, c'est pas le livre de l'année, mais en revanche, je lui donne vraiment énormément de crédit pour. Je t'ai dit, il a fait bouger mes lignes intérieures. C'est rare. C'est pas tous les livres qui font ça, en fait, tu vois. C'est-à-dire que vous attendez pas. Moi, en tout cas, pour ma part, j'ai pensé que c'était de la grande littérature.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
C'est pas une intrigue incroyable, mais la manière dont ça pose la réflexion, la manière dont ça fait avancer le sujet des violences conjugales, ça, c'est fort. Ça, moi, je l'ai jamais lu.
Ouais, je
Et
suis d'accord.
ça, rien que pour ça, bah franchement, bien sûr que ça te marque. Et moi, je pense que ce qui m'a le plus. Moi, j'ai pas pleuré. Mais par contre, là où j'ai failli verser ma petite larme, bah, c'est quand Colleen Hoover reprend la parole. Donc, vous le verrez à un moment. Là, c'était chaud. Là, tu vois, je t'en parle, j'ai à nouveau des frissons, par
Ah,
contre.
mais bien sûr. Et puis, tu sais, un
Voilà.
truc que je trouve fou dans ce livre, c'est que ça commence par le père de Colleen Hoover et ça finit par son père. La première dédicace
C'est
est
vrai
pour son père. Mais
ce que tu
oui,
dis? C'est vrai, c'est
la
vrai.
première dédicace est pour son père. La dernière phrase est pour son père.
Ouais.
Et moi, je trouve que tu as même, en tant que personne musulmane, parce que moi, je vais toujours chercher l'islamité dans tout ce que je vois. Parce que vraiment, Colleen Hoover, grande femme du Texas, à mon avis, on n'a rien à faire de l'islam. Mais tu vois, je me dis. C'est fou comment elle montre que le changement est en réalité vraiment possible.
Ouais.
Et qu'une personne n'est pas définie par ses actes. Parce que nous, notre religion, elle nous dit, hein, tes actes ne définissent
Oui.
pas qui tu es. Donc, et je trouve que c'est beau, tu vois, parce que c'est d'ailleurs, pour avoir eu le débat avec mes amis il n'y a pas très longtemps, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de lire. Et même de voir dans la vraie vie. Dans la vraie vie, les gens sont très peu nuancés. Enfin, en tout cas, sur ce genre de sujet, il y a peu de nuances. On va être très manichéen, on va être très binaire, c'est non, c'est oui, etc. Mais c'est fini. Et elle, justement, elle vient rajouter de la nuance et de l'intérêt et surtout de la profondeur. Un truc où on ne veut pas mettre de la profondeur. Qui a envie d'avoir de l'empathie pour l'agresseur ? Personne.
Est-ce qu'il y a des choses que tu as moins aimées dans ce livre ?
Bah en fait, il est quand même très facile. Dans le sens, enfin, il y a certaines choses qui sont faciles. Pas, non, alors, ouais, il n'est pas très facile dans la manière dont Lily se pose la question par rapport à son mariage et tout. Mais c'est vrai que toute la question par rapport à Atlas, et notamment la fin, est quand même très facile. Mmh. Mais parce que ça reste de la romance, ça reste un livre grand public, c'est un livre d'ailleurs qui va bientôt sortir au cinéma, enfin pas bientôt, mais là ça y est, le scénario a été terminé, etc. Donc ça reste un truc grand public, etc. Il faut derrière ce côté un peu conte de fées, et ça on le retrouve. À un moment, ça on le retrouve à la fin du livre, la dernière phrase du livre, du roman. Vraiment, après, moi j'avoue, moi, je suis vraiment une hopeless romantique, mais vraiment à la vie et à la mort. Moi, mon personnage préféré du livre, c'est Atlas.
Donc, c'est bien qu'il y ait deux avis. On s'est tranché sur la question. Du coup, voilà, si vous avez un troisième avis, ou si vous êtes plutôt comme moi, team... Je ne suis pas team... en tout cas, si vous n'êtes pas team Atlas, comme moi... voilà, faites-le nous savoir. Ou si vous êtes team Atlas, faites-le nous savoir.
Ouais, moi, j'avoue que... En fait, c'est juste...
Mais qu'est-ce que t'aimes dans ce personnage ?
Et parce que moi, je trouve ça beau, cette manière d'aimer. En fait, c'est parce que... Mais vraiment, parce que je pense que j'ai pas réussi encore à abandonner tout l'imaginaire autour du prince charmant.
D'accord.
Et donc, forcément, Atlas, vraiment, tu fais pas plus prince charmant que ce mec. Enfin, littéralement.
Oui, c'est clair.
C'est vraiment le clin d'un prince charmant dans la romance contemporaine, tu vois. Et surtout, franchement, il lâche des phrases... Qui ne rêve pas d'entendre ça ? Enfin, c'est trop beau, tu vois. Ouais, visiblement, vraiment, je peux vous dire, pour voir Madina devant mes yeux, Madina ne rêve pas.
Non, pas du tout. Non, parce que franchement, moi, je trouve que c'est... Ouais, bah, tu l'as dit, tu as commencé en disant ça, c'est facile. Mmh. Et en fait, moi, j'ai lu beaucoup de comédies romantiques. Et en fait, moi, aujourd'hui, c'est pas ça que j'attends de l'amour. C'est pas ça que j'attends d'une histoire. Mais je pense qu'on en parlera à la fin, parce que ce serait bien qu'on donne chacune une reco d'un bouquin qu'on ne spoilera pas, du coup. Pour les personnes qui veulent aller plus loin. Moi, parmi les deux autres choses que j'ai moins aimées, et je pense que c'est important d'en parler au vu du public et puis au vu de ce qu'on s'est dit en intro, c'est que je trouve... que certains passages sont assez crus, notamment au début, quand Riley et Lily se cherchent. Moi, encore une fois, je ne signe pas pour ce genre d'amour-là. Très one night stand, tu vois. Très histoire d'une nuit. Alors, vous allez voir, Lily, elle a des principes, elle a des valeurs. On voit que Colin Dever, elle est du Texas.
Il y a un schéma
de valeurs, clairement. Ouais. Mais moi, ça m'a vraiment dérangée. Et je me suis dit, je ne m'attendais tellement pas à ça en lisant la quatrième de couverture, que je me suis dit, oh là là, c'est niais, et puis en même temps, c'est trop cru pour moi. Ouais. Moi, j'ai passé ce genre de lecture. Malheureusement, je les ai traversées, mais aujourd'hui, j'en suis plus là. Et voilà, moi, je pense quand même qu'il faut prévenir le public. Il y a des scènes, il y a des passages, il y a des conversations qui sont un peu crues. Et il y a même des scènes, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des scènes que vous devrez passer.
Ouais, voilà. Complètement.
Il y en a peu, mais il faut le préciser quand même. Et de toute façon... c'est un peu le drame de beaucoup de romances de nos jours, c'est qu'il y a de plus en plus de scènes explicites, voire très explicites.
Ah, mais franchement, il faut le dire, dans la romance, il y a des scènes pornographiques. Moi, je bataille beaucoup sur Booksta pour essayer de faire comprendre aux gens que c'est des scènes pornographiques, même si ça ne s'inscrit pas dans un roman pornographique, ça ne change rien. Quant à tous les détails d'un rapport intime entre deux personnages, s'il vous plaît, venez, on s'assoit et vous m'expliquez en quoi c'est pas du porno. Vraiment, parce que je comprends pas. En plus, quand tu vois le comportement de certaines, c'est à base de je lis pas le livre s'il y a pas du smut. Smut, c'est justement ces scènes-là.
Des scènes d'intimité.
Elle cherche vraiment ces scènes dans le livre. C'est de plus en plus cru. Vraiment, il y a des trucs, mais en fait, c'est juste. Enfin, moi, je suis désolée, je le dis honnêtement, ça me donne personnellement parfois envie de vomir. C'est beaucoup trop. Enfin, on n'a pas signé pour ça, en fait. La réalité, c'est que, en plus, nous, en tant que personnes musulmanes, on a une pudeur par rapport à ça. Je dis pas que c'est tabou du tout, le sexe. Hein. Vraiment, c'est pas le sujet. On a une pudeur. Enfin, on va pas commencer à raconter tout devant tout le monde, tu vois.
Ouais,
et tu lis des choses, vraiment. Enfin, moi, maintenant, alhamdoulilah, je saute systématiquement ces scènes.
Ouais.
Mais vraiment, enfin, à l'époque où je le faisais pas et tout, ou en tout cas, même à l'époque où j'étais pas musulmane, donc vraiment, ça me passait même pas sur la tête.
Ouais, ouais.
Mais enfin, En fait, c'est juste, c'est bizarre. Et ça, j'arrive pas à le faire comprendre aux gens qui m'entourent qui sont pas musulmans. Mais même, il y a des sœurs musulmanes sur Booksta et elles aiment trop ça. C'est juste, je sais pas, c'est.
Bah, parce qu'en fait, je pense que on a déjà parlé quand on a préparé l'enregistrement, c'est qu'en fait, ces scènes d'intimité, pour moi, c'est vraiment c'est des scènes chétaniques enveloppées dans du coton. C'est-à-dire que quand tu achètes à l'époque, hein, à l'époque, on achetait encore les CD, n'est-ce pas? C'était marqué Parental Advisory, tu vois. Et donc, du coup, bah, en fait, tu peux te dire que toi, en tant que personne jeune, ça te passe au-dessus de la tête, mais en fait, tes parents, ils l'ont lu. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, ton père ou ta mère, elle sait très bien que dans l'album là que ton fils il écoute, il y a des paroles qui sont explicites, il y a des paroles qui sont pas très bonnes pour lui. Quand tu regardes des films là que Dieu nous en préserve, qui sont interdits aux moins de 18 ans, c'est interdit aux moins de 18 ans, donc on le sait. Le problème de ces livres-là, c'est qu'ils sont accessibles à tout le monde.
Complètement.
Et donc personne te met un trigger dessus, donc toi, bah tu lis. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu lis? Eh ben en fait, que tu le veuilles ou non, ça va plaire à une partie de ton esprit en
Bien
fait.
sûr.
Donc en fait, tu vas vite couvrir le fait que c'est un problème. Et il faut du temps pour réaliser, mais en fait, là, ce que je suis en train de dire, là, c'est archi problématique. Personne ne me l'a dit. Mais si je me réfère à nos enseignements religieux, c'est chaud. Je suis désolée, quand on demande de baisser le regard, c'est pas que sur des gens dans la vraie vie, c'est aussi sur ces propos-là en fait. Et c'est pas parce que ce ne sont pas des scènes que tu vois avec des personnes que c'est pas problématique pour autant, tu les as lus, mais ça a un impact et ça s'imprime sur ton cerveau, quoi.
Ah bah bien sûr, et puis surtout le film se fait automatiquement parce que l'écrasante majorité des gens imaginent quand ils lisent. Donc le truc, en fait,
Oui.
tu l'imagines tout
Ah bah c'est
simplement. Donc au
fiction, hein,
final, c'est
bah clairement.
exactement pareil. C'est vraiment.
Bah oui, l'impact est le même avec ce truc que c'est encore plus problématique dans ces livres-là, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup, beaucoup de femmes qui le lisent. Tu sais, tu parlais de scènes extrêmement pornographiques, très violentes. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un style qui a émergé qui s'appelle la dark romance. Dieu merci, en France, les Français sont un peu snobs. Mais parce qu'on est snob, on aime quand c'est bien écrit, on aime quand. Enfin, on aime les choses qui ont du sens. Et la dark romance, c'est quand même des romances sombres, mais sombres parce que l'amour qui est décrit, c'est un amour très, très, très problématique, avec du syndrome de Stockholm, avec de la séquestration, etc. Mais sous couvert de c'est un bad guy, mais quand même, il a un bon cœur, etc. Et vous allez voir, on va ouvrir sur la conversation, sur la manière dont ces livres-là construisent notre amour. C'est un problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des femmes qui lisent ça. Qu'en fait, derrière, quand toi, tu vas chercher une personne, tu vas te dire, ouais, mais il est trop gentil. Ouais, mais il est trop mou. Ouais, mais si il me traite mal, c'est parce qu'en fait, il m'aime. C'est ça l'amour. Et ça dérègle et ta sexualité, ton intimité, mais aussi la manière dont tu perçois l'amour. Et ça, c'est très
Complètement.
grave.
Ah, mais genre, moi, la dark romance, et surtout quand je vois que la dark romance est beaucoup lue par des jeunes, en fait. Enfin, moi, globalement, je vois quand même, en France, il y a quand même très, très peu d'étalage de dark romance, etc. C'est pas.
Ça prend pas en France en fait, c'est pas encore un style qu'il y a beaucoup
Alors,
pris
ça
en
prend, mais
France.
c'est très niche, on va dire.
Oui, c'est très niche, c'est-à-dire que c'est pas. Je pense qu'aux États-Unis, les auteurs de la romance, ils vendent vraiment beaucoup de livres,
Ah, mais
tu
pour
vois, par
notre
rapport à la
bouillasse,
France.
les gens lisent ces livres, ils n'ont pas honte en plus. Il hein. Y a un livre qui est quand même autour de l'inceste de un frère et d'une sœur. Ça s'appelle
Waouh.
Forbidden. Ce livre, les gens le lisent. Et alors, certes, le truc est dénoncé. Hein. Enfin, je veux dire, on sait que les personnages ne vont pas bien quand ils ont ces rapports et tout. Ils savent que ça vient d'un problème, tu vois.
Oh,
Mais les gens lisent le livre,
d'accord.
ils sont en mode, oh, franchement, trop belle plume et tout. Et moi, je suis en mode, mais.
Trop belle plume, mais c'est pas la question en fait.
Je te jure, Madina, j'essaie de faire comprendre aux gens que la plume, on s'en fiche. Vraiment, je suis abasourdie. C'est vraiment, c'est le truc, c'est je sais plus quoi faire parce qu'on est arrivé à un tel niveau de manque de bon sens que tu peux plus discuter avec les gens. En fait, la
Bah
discussion, elle
non,
est
mais.
impossible.
Ben non, mais tu sais, comme tu le dis, on en revient toujours à la religion. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même l'a dit à notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam.
Ça, c'est bien.
Toi, tu es juste là pour transmettre le message. Tu peux pas guider les
Ah,
gens.
c'est ça.
C'est moi qui guide. Et en fait, parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, il met une fêlure. Il met une fêlure dans leurs oreilles pour pas que ces gens entendent la vérité. Parce que les gens sont tellement coupés du monde qu'à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur trace le chemin qui n'est pas la voie de droite. Et c'est eux qui ont choisi ce chemin-là. Mais du coup, ils scellent un peu leur destin. Donc en fait, moi, à un moment donné, il faut plus s'évertuer à ça, quoi. Moi, je pense que l'idée, c'est vraiment, par contre, d'arriver en sensibilisation auprès de nos sœurs et d'expliquer que ça existe. Et c'est important pour, du coup, bah, les sœurs qui en lisent et qui ne se rendent pas toujours compte que c'est problématique, pour les frères et les sœurs qui ont des enfants, pour vraiment leur faire comprendre, attention, si par exemple vous avez un enfant, notamment une jeune fille qui lit beaucoup, renseignez-vous. Renseignez-vous sur les auteurs, renseignez-vous sur les types de livres, parce que la réalité, c'est que ça peut faire des dégâts qui sont considérables dans l'esprit des personnes. Mais du coup, ça me permet vraiment de faire le lien sur une question que je souhaitais que l'on aborde toutes les deux, c'est l'impact des romances sur notre manière de percevoir l'amour. Est-ce que toi, en tant que, ben voilà, en tant que lectrice, tu peux nous confirmer ici que les livres que tu as lus, ça a façonné, ou en tout cas, ça a aidé à façonner la manière dont tu conçois l'amour, le mariage ou ton potentiel époux, ton futur époux.
Ah, mais complètement. C'est franchement, et puis surtout, je pense que ce qui est important de rappeler avant toute chose, c'est que nous, notre amour, le mariage en islam, ce n'est pas l'amour que les non-musulmans ont en tête. On est sur une notion qui est complètement différente. Le mariage en islam, le mariage de non-musulmans, ce n'est pas la même chose. Allah, il élève l'amour en islam. Il élève complètement, il change complètement la donne. On arrête d'aimer simplement parce que nous, on veut être aimé. On se marie pas déjà parce que juste la personne nous plaît. On se marie parce qu'il y a une adoration à mettre en place qu'on est presque obligé d'accomplir. Donc le sujet, il n'est pas du tout le même. Dans les épreuves, dans le mariage, on n'est plus du tout sur un truc de « ah, tu me saoules, c'est bon, je te claque la porte au nez ». On est vraiment poussé à la résolution du problème, au pardon, etc. Donc ça n'a absolument rien à voir. Et en plus, on n'est pas du tout juste sur « moi, je veux la personne la plus parfaite qui existe sur Terre, j'attends des attentions ». Mais franchement, parfois, j'ai l'impression qu'on oublie que ces livres sont écrits par des femmes. Ouais. Ces hommes n'existent pas. Non, mais les filles, vraiment, réveillons-nous. Ces hommes qui savent littéralement lire dans nos pensées et ont la bonne action avant même qu'on l'ait faite, regardons nos pères. Qui fait ça? Personne. Les hommes ne sont pas capables de faire ça. Mais nous, du coup, ce qu'on croit, parce que moi, vraiment, il a fallu que je déconstruise complètement mon image de l'amour. Vraiment.
Et à quel moment, pardon, mais à quel moment tu t'es dit justement, non, mais ça, c'est pas la vraie vie. Est-ce que c'est lié à ta conversion?
Ouais.
Est-ce que plus tu as avancé dans l'islam, plus tu t'es dit, mais en fait, l'amour, c'est pas ça, c'est ça?
Ouais, mais complètement. Vraiment, je le dis, sans l'islam, ma vision de l'amour serait vraiment celle de personnes qui ont été biberonnées à Disney. Puis après, aux romans adolescents, les romances tapeurs. Puis après, Hollywood. Et puis maintenant, les romances. Donc franchement, je m'attendrais, enfin, je serais dans un truc où j'attendais l'homme idéal, parfait, sans moindre défaut, qui saurait lire dans mes pensées et qui aurait toujours la bonne attention constamment. Moi, c'est vraiment ce qui se passerait dans ma vie si je n'étais pas musulmane. Moi, mon attente de mon époux, c'est pas du tout ça. Moi, cet homme, je n'attends pas qu'il soit capable de lire dans mes pensées. Je n'attends pas qu'il soit... Alors déjà, ils sont tous magnifiques, les mecs, dans les romances. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il n'y a personne...
Il n'y a pas de moche.
C'est un truc...
Non, il n'y a pas de moche.
Tout le monde a des abdos. C'est même le six-pack.
Mais c'est ça, moi.
Le nine-pack, ouais. Là. Vraiment, ils ont des
abdos. Et est-ce que, du coup, toi, tu as des solutions pour sortir, justement, de ce fantasme-là? Parce qu'en fait, tu sais, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu disais, en fait, qu'avant ta conversion, ta vision de l'amour était d'une certaine manière, aujourd'hui plus du tout. Je suis née dans une famille musulmane, etc. Donc, mon cheminement spirituel, il est différent. Mais je peux te garantir que moi aussi, j'étais biberonnée aux séries. Moi aussi, j'étais biberonnée aux films Disney. Moi aussi, j'étais biberonnée et des frères Scott, et j'en passe et des meilleurs, voilà. Et en fait, moi, je mentirais si je disais que moi, ça ne m'a pas impacté. Donc, moi, ça ne m'impacte pas encore, peut-être, tu vois. Donc, est-ce que tu as des solutions pour un petit peu nous aider, donc toi et moi déjà, puis après les personnes qui nous écoutent aussi, parce que voilà, chacun doit faire son travail. Hein. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait qu'on n'est pas là pour donner des conseils aux gens. Nous, on est là pour se réformer. Ouais, et en même temps qu'on parle, on ouvre la discussion à tout le monde. Mais personne n'est parfait, et à commencer par nous. Donc, est-ce que tu as des conseils, des actions que tu as pu mettre en place pour un peu changer ce mindset-là?
Je pense que déjà, le premier truc, et je pense qui est le plus simple, c'est qu'il faut aussi contrebalancer avec du contenu qui est réaliste et qui est réel. des podcasts sur l'amour. Enfin, je veux dire, vraiment, Halal Love, c'est génial. Parce que tu peux avoir... C'est-à-dire que quand tu entends l'épisode, je pense par exemple à l'épisode de Ali Habibi, sur toutes les personnes qui divorcent et tout, hey, mais les gars, ça, c'est vrai, c'est ça la réalité. Hein. C'est divorce.
Ouais, complètement.
C'est un couple sur deux quand même. C'est des gens qui... Personne ne veut mettre de l'eau dans son vin. C'est ça la réalité des faits. C'est que le mariage en islam, moi je suis là avec mes grands discours, mais nous, nos frères et sœurs en islam, même mariés, ils galèrent en fait. Donc je pense que c'est important déjà de regarder même les couples autour de soi. Moi personnellement, des couples Hollywood autour de moi, il n'y en a pas. C'est-à-dire même le couple le plus, mashallah, qui a une trop belle rencontre, a un trop beau mariage et tout, et dans, pour avoir vu ma copine hier, elle est quand même saoulée de son mari parce qu'il y a des trucs qu'il ne fait pas. Donc dans la réalité des faits, personne n'est parfait. Donc vraiment, entourons-nous en fait de la réalité. Entourons-nous de contenu sur les vrais couples. Interrogeons nos tantes, nos mères, etc. En regardant en fait ce qui est la vraie vie. Moi, je trouve ça trop beau, les couples avec des témoignages sur l'histoire. Alors, il y a une petite part de moi qui parfois se dit un peu de voyeurisme et tout. Mais en réalité aussi, il y a aussi beaucoup de leçons.
Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut changer la manière dont on se divertit. Mmh. C'est ça qu'il faut qu'on change. Mais c'est très difficile parce que on se divertit d'une certaine manière depuis parfois 2 décennies, parfois 3. Et c'est difficile du jour au lendemain. Moi, je vais de moins en moins au cinéma, par exemple, alors que j'y allais beaucoup. Mais j'y vais plus parce qu'en fait, là, pour le coup, les smut scenes, c'est...
Tu ne peux pas tourner les scènes, en fait. C'est simple. Tu es obligé de la regarder. Non. Tu veux faire.
Tu es obligé. Bah ouais, puis si tu ne la regardes pas, t'as le son. Mm. Je pense qu'il faut changer la manière dont on se divertit. Mais ce n'est pas forcément facile. Mais je pense qu'il faut demander à ce point-là de nous faciliter ce changement-là.
Amin.
Je pense. Je pense qu'il faut aussi avoir conscience, effectivement, que c'est très problématique. Ne admettre la vérité, c'est déjà une manière de soigner le mal-là, en fait. Après, on fait tous des erreurs, personne n'est parfait, mais une fois qu'on l'a admis, ça va déjà mieux. Et je pense qu'il faut... il faut s'entourer de personnes qui ont le même focus que toi et les mêmes priorités que toi. Parce que, tu l'as dit, sur Booksta ou sur BookTok, en fait, les personnes qui vont te conseiller du divertissement ne voit pas le problème.
Bon,
en fait.
Ça.
Donc forcément, toi, tu vas le voir de moins en moins parce que tu vas le banaliser. Mmh. Et de toute façon, c'est fait pour, en fait, soyons très clairs. Mais justement, pour aller à la fois pour clôturer notre conversation et du coup, pour offrir une transition parfaite à nos auditeurs, est-ce que tu auras un livre qui parle d'amour, mais qui parle d'amour différemment, qui t'a touché et que tu peux conseiller?
Ouais. Alors moi, je préfère prévenir. Parce que c'est aussi une réalité, c'est qu'aujourd'hui, trouver des bons romans qui vont avec notre vision de l'amour, c'est excessivement difficile. Déjà, un, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Et deux, parce que moi, j'ai trouvé avec ma toute petite expérience que c'était aussi un peu moins qualitatif. Mais j'ai lu un roman qui s'appelle Aïcha Atlas, d'une autrice qui s'appelle Ouzma Jalaluddin, qui est une romance musulmane. Et qui, du coup, en fait, c'est l'amour dans un contexte qui est musulman. Donc on s'y retrouve un petit peu, on est un peu plus représenté, on peut voir, c'est juste, c'est chez nous, vous voyez. Après, il n'est pas parfait, et vraiment, je préfère prévenir les gens. En revanche, moi j'ai vraiment quand même beaucoup aimé ce livre. C'est une revisite de Orgueil et Préjugés, donc si vous avez beaucoup aimé cette histoire de Jane Austen, vous avez certainement beaucoup aimé. En revanche, comme d'habitude, c'est pas traduit en français, donc ça sera forcément en anglais.
Ok, on te remercie pour cette reco. Moi, je vais recommander un livre qui n'est pas écrit par une femme musulmane, par une autrice musulmane, mais qui parle de cet amour-là, le vrai amour. C'est Eliane Moriarty. Alors, elle est connue pour avoir écrit Le secret du mari. Je crois que c'est Petit secret, grand mensonge.
Ouais, c'est Big Little Lies, non ?
Big Little Lies, ouais. Exactement. Moi, ce que j'aime avec cette autrice, c'est qu'elle... tu vois, ces personnages... ils sont quasiment tous quadras. Ouais. Donc, en fait, ils sont dans le dur du mariage. Mmh. Et pour moi, c'est ça la vraie vie.
Ouais,
c'est le dur du mariage. C'est comment tu fais pour... t'es dans le creux de la vague pour retrouver un souffle. Pour pas... pour te poser les bonnes questions, déjà, parce que peut-être que de nouveaux souffles, il n'y en aura pas. Mmh. Mais en tout cas, peut-être qu'il peut en avoir un. Et moi, le livre que j'aimerais conseiller, c'est le premier que j'ai lu d'elle, À la recherche d'Alice Love. Mm-hmm. J'ai lu il y a quelques années, donc le synopsis ne sera pas parfait, mais en gros, c'est une femme qui est, pareil, dans sa quarantaine à peu près. Un jour, elle va à la gym et elle fait un faux mouvement. Elle, Elle se cogne le front, en gros, sur son tapis ou je sais plus. Et elle a une commotion cérébrale.
Okay.
Elle oublie les 10 dernières années de sa vie.
Okay.
Donc, elle pense que elle est en mariage. Elle est folle amoureuse de son mari, qu'elle est enceinte de son premier enfant. Mm-hmm. Alors qu'en fait, elle en a 3. Elle en a sens de divorce. Donc, du coup, elle, quand elle se réveille, tu vois, elle va appeler son mari et tout ça. Oh là là, c'est pas ce qui m'est arrivé, c'est trop marrant. Et c'est la secrétaire qui répond en disant « Ouais, encore vous ?» Enfin, tu vois. Et en fait, elle se dit « Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé ?» Tu vois. Sauf qu'en plus, tu vois, c'est assez marrant parce que quand la secrétaire prend l'appel, il y a des choses en elle, son corps se souvient qu'elle n'aime pas la secrétaire. Ouais. Elle reprend un ton hyper cassant, mais elle se dit « Mais qui est cette personne qui parle aussi agressif ? Ça ne peut pas être moi. » Et puis en plus, je déteste aller à la gym. Moi, j'aime manger des pizzas et des muffins. Et là, je vois que j'ai plus de gras. Qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans ? Mm-hmm. Où l'amour est passé, où je suis passée. Et c'est trop beau parce que du coup, c'est l'occasion de voir si cet amour qui est né, enfin de voir déjà comment l'amour qui est né il y a plus de 10 ans a fané, mm-hmm. est-ce qu'elle peut le retrouver. Et c'est pas que l'amour marital, parce que donc ces gens sont mariés, mais c'est aussi l'amour entre frères et sœurs, j'en dirais mm-hmm. pas plus. Mais en tout cas, il y a vraiment ce truc de t'as changé en 10 ans.
Ouais.
T'as changé. Et le dénouement, je le trouve hyper fort parce que tout le monde, enfin, j'en dirais pas plus, je veux pas en dire plus parce que je veux pas en spoiler, mais en tout cas, voilà, c'est cette nuance dont je parlais au tout début qui est importante pour moi, et c'est ce réalisme, mais ça n'empêche pas que c'est une très très belle plume. Et là, pour le coup, moi, je trouve que j'ai eu beaucoup plus à méditer sur les phrases de Anne Moriarty que les phrases de Colleen Hoover.
Ouais, okay.
Par contre, je reconnais à Colleen Hoover que c'est d'une fluidité ce qu'elle écrit, c'est précis, c'est clair, ça, on peut pas lui retirer, mais Anne Moriarty, il y a une espèce de poésie en plus, mm-hmm. Que je trouve hyper agréable.
Ah bah en tout cas, je suis giga donné envie de le lire. Genre, j'ai trop, trop, trop envie de le lire. En plus, j'aime trop, moi, des histoires un peu de personnages qui ont oublié et qui, du coup, qui comprennent pas ce qui se passe, tu vois. Ils sont en mode, mais comment on en est arrivé là ? Et puis même, parfois, c'est des histoires, tu sais, tu vas avoir des flashbacks et puis après, tu vas avoir le présent et tu te dis, mais comment on est arrivé au gros drame, tu vois, de ce qui a
été créé.
Donc, franchement, moi, tu m'as giga donné envie de le lire.
Ah bah, écoute, tu verras. Bah, petit secret et grand mensonge, en fait, le problème de Liane Moriarty, c'est que quand on a lu 2-3, c'est comme si tu les avais tous lus. Donc, franchement, faites attention au livre que vous choisirez parce que le premier va vous plaire et puis après, vous aurez un sentiment de déjà-vu qui risque de revenir. Mais dans Petit Secret, Grand Mensonge, il y a ce truc aussi de comment on en est arrivé là. Mm. Et puis, le dénouement s'explique au fil des pages. Mm. Mais voilà, on vous a fait 2 recos, voire 3. On espère que ça vous plaira. Et puis, n'hésitez pas... nous faire un retour. Moi, je donnerai toujours un peu mes coordonnées pour information, ceux qui ne le savent pas, ceux qui ont oublié, peu importe. J'ai quitté les réseaux sociaux il y a un mois et demi, donc je suis introuvable sur les réseaux, mais j'ai une petite newsletter, je vous mettrai le lien pour vous abonner, et puis voilà, après vous aurez mes contacts, ce sera l'occasion d'échanger. Voilà.
En tout cas, moi, je te remercie vraiment beaucoup, Madina. Vraiment, honnêtement, je suis très honorée d'être invitée sur ton podcast. moi, vraiment, c'est devenu l'un de mes podcasts préférés, si ce n'est mon podcast préféré, parce que je trouve que tu décris très bien tu viens répondre à un besoin. Et ça, vraiment, je trouve que tu, mashallah, tu le fais vraiment super bien. Et en fait, tu viens remettre l'amour en Allah, qui est le plus bel amour, qui est l'amour qui change une vie. Et ça, c'est une réalité quand on l'a vécu, quand on le vit, alhamdoulilah, on se rend compte à quel point on est dans le vrai, pour une fois. Et je sais pas. Et vraiment, je trouve que c'est trop beau. Et puis surtout, c'est utile. Enfin, moi, je sais que j'ai écouté certains de tes épisodes et je me suis dit, enfin, rien que l'épisode avec Ali Habibi, vraiment, mais Allah, il vous récompense tous les deux parce que, la phrase sur la colère, très en colère avec quelqu'un d'autre, vraiment, je me suis dit, mais en fait, il a raison. Il a vraiment raison. On est aussi responsable de la manière dont on réagit à cette colère, même si c'est pas à cause de nous, tu vois, qu'on l'éprouve, tu vois, de base.
Exactement.
Que Allah vous récompense.
Amine, je te remercie du fond du cœur, Eline. Moi, subhanallah, de toute façon, toute la louange, elle revient à Allah. Moi, je le dirai jamais assez. Nous ne sommes que des biais, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous met sur le bon chemin. On espère, inchallah, on demandera à Allah subhanahu wa ta'ala de qu'on soit sur le droit chemin. On espère que nos œuvres, nos discussions pèseront lourd dans notre balance au moment venu. Je suis ravie de t'avoir eu vraiment, d'avoir fait ce petit crossover. C'était génial. Il n'y avait pas Lola, il n'y avait pas Sarah, mais tu les embrasseras pour moi et pour nous, Inch'Allah.
Bien sûr. Merci beaucoup, Madina. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halal Love, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça c'est si vous avez une minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème, abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leur doigt. Qu'Allah Azzawajal vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.